Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Et nous dialoguons ensemble au 32-10 jusqu'à 14h. On retrouve Xavier. Les nouvelles restrictions entrent en vigueur aujourd'hui. Et vous, vous êtes farouchement contre.
Oui, Christelle. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur l'ouverture de votre journal, l'ouverture des titres à 12h. Vous avez affirmé que la circulation du virus avait augmenté de 150% en une semaine. Sur quoi vous basez-vous ces chiffres ?
Sur les chiffres du ministère de la Santé.
Mais la circulation du virus n'a rien à voir avec le taux de positivité des tests qui sont effectués.
Oui, mais c'est quand même un signe assez spectaculaire. Bah, ici, on arrive à 18 000 contaminations rien qu'en l'espace de 24 heures. Non, c'est pas une fausse information. Vous pouvez...
et de même que l'augmentation des tests positifs sont liés à la forte recrudescence des gens qui sont allés se faire tester pour pouvoir avoir le pass sanitaire faute de vaccination. Vous êtes d'accord ?
Mais vous voyez bien
plus on teste, plus on a de positivité, forcément. Il faudrait qu'on ait le nombre de personnes testées et le nombre de personnes positives pour pouvoir faire, pour avoir un ratio.
Mais pourquoi vous dites qu'il y a de plus en plus de personnes testées aujourd'hui ?
Bah, les gens sont allés se faire tester pour partir en vacances, faute d'avoir pu être vaccinés éventuellement.
Mais tous ceux qui sont en France,
ils
n'ont pas besoin. Pardonnez-moi, Xavier, tous ceux qui sont en France n'ont pas besoin d'être testés pour partir en vacances en France.
Ah, mais ça dépend où vous allez. Si vous avez besoin d'aller dans certains lieux, il vous faut un test PCR. Si vous voulez aller visiter la Tour Eiffel,
À partir d'aujourd'hui.
Donc là, on parle des chiffres des derniers jours. Dans le vent de panique qu'il y a eu, les gens sont tous allés se faire vacciner sans réfléchir et sont allés se faire tester, tout simplement, c'est un réflexe. Mais le virus ne circule pas tant que ça. Les virus ne circulent pas tant que ça.
Ça, c'est vous qui le dites, Xavier.
Mais oui, c'est moi qui le dis. Oui, bon. Et je contredis tout à fait ce que dit le gouvernement et les médias.
Donc il ne faut pas croire les chiffres du ministère de la Santé.
Bah non, de toute façon tout est bidouillé.
Bon, en tout cas, vous ne les croyez pas, mais nous on va continuer, on va continuer à les croire quand même, parce que ça nous paraît important.
Ah bon ?
Je vois pas pourquoi ils nous raconteraient des.
Mais pourquoi vous ne remettez pas en cause ce que peut dire le gouvernement ? Donc ça veut dire qu'il y a une pensée unique qui est relayée par.
Non, c'est pas une pensée unique. Ce sont des chiffres qui sont compulsés, de manière extrêmement transparente. Il n'y a pas de pensée unique. Peu importe. On ne sera pas d'accord. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, dites-moi. Pourquoi le pass sanitaire vous dérange tant ?
De toute façon, en premier lieu, moi je suis en Eure-et-Loire, et pass sanitaire ou pas, il faut se remettre à porter le masque en extérieur.
Donc, dans votre département, le préfet a pris cette décision en Eure-et-Loire ?
Oui. Donc est-ce que le pass sanitaire a un but sanitaire ou autre ?
C'est-à-dire ?
Quel est l'intérêt du pass sanitaire ? Si finalement on est obligé de porter le masque malgré le fait qu'on soit vacciné ? Je me pose la question, est-ce qu'il y a une logique à mettre en place un pass sanitaire en plein été ?
Pardon, je ne comprends pas votre question, Xavier, en fait.
Moi, je ne comprends pas pourquoi on met en place un pass sanitaire, tout simplement.
Un pass sanitaire, ça vise à éviter les contaminations ?
Non, parce que même si vous êtes vacciné, vous pouvez vous transmettre le virus.
Oui, mais on le transmet beaucoup moins et à bas bruit,
Mais on n'a pas les chiffres exacts. Vous regardez en Israël et en Angleterre, vous avez quasiment autant de vaccinés, de non-vaccinés qui se transmettent le virus et qui sont malades.
Mais vous ne les croyez pas, les chiffres, Xavier ?
À Gibraltar, 99% de la population est vaccinée, les gens redeviennent malades avec les nouveaux variants. Donc à quoi cela sert-il ?
J'ai pas vu cette information-là.
De se faire vacciner, pour éviter les formes graves pour les personnes à risque. Mais à quoi sert le pass sanitaire surveiller la population, à part le faire durer pendant des années et des années.
Donc Xavier, si j'ai bien compris,
en passeport social à la chinoise.
Oui, Xavier.
En parallèle, l'euro va devenir numérique, il n'y aura plus d'argent liquide. Donc la finalité.
Ah oui, vous allez loin quand même là.
Oui, non mais c'est écrit tout ça.
Oui, d'accord.
Il y a un monsieur qui a fait un livre de prospective l'an dernier qui s'appelle Le Great Reset et tout ça c'est écrit dans
c'est de la prospective, mais c'est pas
de la
réalité.
C'est présenté comme de la prospective, mais c'est ce qu'il voudrait.
Ah, c'est ce qu'il voudrait. Voilà.
Oui, et puis il a besoin de petits pions comme Macron et consorts pour mettre ça en place.
Oui, bien sûr.
Et quoi de mieux que de maîtriser les gens pour mettre des choses comme ça en place ? Pourquoi Macron fait passer ça en plein été quand les gens sont en congé ? Pourquoi ? L'an dernier, l'été dernier.
C'est sûr, si vous considérez qu'il n'y a plus de virus, c'est sûr qu'on a du mal à suivre. Je voudrais juste savoir, Xavier, est-ce que vous êtes vacciné ?
Non. Moi, j'attends éventuellement Le Sanofi en fin d'année.
Ah bon, pourquoi oui. Plus le Sanofi que les autres
Parce qu'il est plus, il est de forme plus classique.
Il y a un autre vaccin qui s'appelle AstraZeneca, qui est complètement classique, comme le Sanofi.
Ouais, mais il n'est pas efficace, ils l'ont eux-mêmes reconnu. D'accord. Les gens du labo l'ont même reconnu, hein, qu'il n'est pas efficace. Il y en a d'autres en Chine, il y en a en Russie, mais la géopolitique, c'est qu'on n'accepte pas ces vaccins-là. Voilà, tout simplement.
En fait, il y a un grand complot mondial, là, si je vous si
c'est
je
pas
vous
un complot,
suis quand même.
C'est de l'opportunisme.
Un petit peu quand même.
Hein mais on en reparlera dans quelques mois, si vous voulez bien. Mais
avec grand plaisir, on en reparlera dans quelques mois.
Mais, si vous me permettez, puis si je ne suis pas sur... si mon smartphone n'est pas sur Pegasus et puis que je me fais enlever par les renseignements généraux, comme je suis complotiste.
Ah oui, d'accord. Oui.
Bon. Non, mais je plaisante, là. Je plaisante.
Oui, bah, j'espère, parce que là, j'ai un peu peur, quand même. Bon, merci
non,
en
mais
tout cas.
Faut que les gens, il faudrait que les Français rebranchent leur cerveau, quand même. Ça, ce serait pas mal. Mmh. Oui, oui.
Mmh. Ok, bah, on va se quitter là-dessus, Xavier. Merci en tout cas d'être intervenu.
Christelle.
Merci, à bientôt. Et bonjour, Tatiana.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Qu'est-ce que ça
merci
vous inspire, ces nouvelles restrictions aujourd'hui?
Alors déjà, un grand merci à Xavier, qui parle d'or. Ça m'inspire que ce ne sont pas des mesures sanitaires du tout. Du tout, tout ça n'a pas de sens d'un point de vue sanitaire. Et que moi je suis très très simple, vous savez, très modeste dans mon raisonnement. J'écoute mon corps et que me dit mon corps? Eh bien que par 30 degrés, voire plus, porter un masque sur le visage qui vous empêche d'avoir de l'oxygène et vous fait respirer votre CO2 de façon recyclée en CO2 uniquement et pas en oxygène, je trouve que c'est toxique et que ça annihile le système immunitaire. Alors aujourd'hui, système immunitaire, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Mais voilà, donc ça n'a pas de sens. Je suis...
Mais Tatiana, vous l'avez porté le masque depuis le début ou pas?
Alors moi, je suis très respectueuse, non pas des règles quand elles sont insanes, je suis respectueuse des personnes que j'ai en face de moi. Donc, dans les magasins, quand j'ai des gens qui sont terrifiés aussi, je le porte avec beaucoup de compassion pour l'état de terreur de ces gens-là.
Mmh. Dans le respect des autres, est-ce que vous allez vous faire vacciner?
Mais c'est parce que j'ai le respect des autres que je ne me ferai pas vacciner.
Ah, alors là, j'ai un peu plus de mal à suivre.
Bah écoutez, c'est que je suis très informée et auprès de personnes de grande qualité, c'est-à-dire des virologues du monde entier, le professeur Montagnier qu'on a traîné dans la boue. Il se trouve que cet homme, pour des raisons personnelles et familiales, je le connaissais, donc je sais à qui j'ai affaire. Quand un prix Nobel vous dit que ce sont les vaccinés qui vont créer des variants, eh bien voyez-vous, j'ai davantage tendance à le croire que Monsieur Véran.
Et il est contesté par l'ensemble du monde scientifique. Mais
et vous savez pourquoi? Pardonnez-moi.
Non, mais il est juste contesté, quoi. Voilà. On va pas en parler pendant des heures.
Non, vous affirmez des choses.
Bah, vous aussi.
Étayez-les. Parce que vous allez me couper la parole. Mais j'aimerais que vous étayiez. Bah, alors, laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Savez-vous pourquoi il est contesté, par exemple? Est-ce que vous savez pourquoi?
Je vous écoute.
Alors, tout simplement parce qu'il a soutenu le professeur Benveniste qui a fait la preuve de la mémoire de l'eau, c'est-à-dire de l'ADN de l'eau, et donc de la véracité, de l'efficacité de l'homéopathie.
Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec notre débat sur le Covid. Mais non, ça n'a rien à voir.
Ça a tout à voir sur le fait qu'on le discrédite. Vous allez me couper la parole. Est-ce que je vous dérange?
Est-ce que je suis en train de le faire?
Vous allez le faire.
Oui, ça, je vous le confirme. On ne va pas dialoguer toutes les deux jusqu'à 14 heures. On va laisser de la place aux autres. Bah, attendez, non.
J'aurais beaucoup à vous apprendre.
Ah, ben je pense, oui, ça c'est sûr. Moi aussi, peut-être, j'ai des choses à vous apprendre.
Je ne pense pas, madame.
Écoutez, puisque je n'ai rien à vous apprendre, c'est pas grave. On va cesser là cette conversation. Merci d'être intervenu. Je vous souhaite une bonne journée. On a Thomas qui nous appelle d'Angoulême. Bonjour, Thomas.
Oui.
Est-ce que vous allez vous faire vacciner, Thomas?
Non, pas tout de suite.
Pour quelle raison?
Eh bien, parce que moi, je suis livreur, donc début de la pandémie, en mars dernier, enfin 2019, moi, on m'a dit de venir bosser parce que, enfin, on m'a dit de pas porter de masque pour venir au boulot parce que ça servait à rien. On m'a carrément envoyé un message de l'OMS. Mon chef m'a envoyé un message de l'OMS pour me dire que les masques servaient à rien. Moi, les masques, je veux bien.
Ça, c'était au tout début de la pandémie, ouais. Thomas. C'est vrai qu'à ce moment-là, le gouvernement disait que ça servait à rien. Je suis d'accord avec vous, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de masques en stock.
Bon, alors, Bon, c'est pareil, j'appelais pour ça aussi. C'est que le problème, moi, je trouve que vous animez un débat, donc vous n'avez pas donné votre avis normalement.
Mais je donne pas mon avis, figurez-vous. J'essaie de porter la contradiction, voyez-vous.
Oui, enfin, c'est un peu dirigé quand même.
C'est-à-dire si vous si vous n'êtes pas d'accord avec moi, a priori, vous pensez que voilà que je enfin bref, peu importe, je m'y perds. Oui. Continuez, Thomas.
C'est pas grave. Moi, je pense pas que le masque serve à rien et tout ça, mais bon, je pense qu'il y a aussi des distanciations sociales. Si moi, je suis livreur, quand je livre une personne, elle reste à un mètre de moi, on se parle pas plus que ça, il n'y a pas de raison que je le contamine. Je sais pas, non, vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Pardonnez-moi, j'ai pas entendu la fin de votre phrase, excusez-moi.
Quand
Thomas.
Je livre quelqu'un, je reste 30 secondes devant lui, je lui demande de signer sur ma feuille.
Et vous portez le masque ?
Oui, je porte le masque. Non, plus depuis qu'il est plus obligatoire en extérieur, je le porte plus. Mais quand je rentre dans les entreprises, oui, je le mets.
Oui.
Mais un particulier que je livre chez lui, je ne mets pas de masque.
Pourquoi ? Alors qu'il est en intérieur ?
Ben non, le particulier, il vient à la porte de chez lui, je suis dehors, lui aussi.
D'accord. Et vous restez à distance ?
Ben oui.
Donc vous considérez que c'est suffisant ?
Ben oui, visiblement c'est suffisant puisque je n'ai pas été contaminé encore.
Ah ben, peut-être vous avez de la chance, hein, je ne sais pas.
Non, mais après moi c'est pareil. Moi ce que je. Le pass sanitaire, je comprends la démarche, mais le truc c'est que. Moi j'ai 36 ans, je ne vois pas l'intérêt. Moi le Covid, à la limite, si je l'attrape, ce n'est pas grave, ça me fera mes immunités naturelles. Vous comprenez, je n'ai pas.
Et si vous l'avez et que par exemple. Non, mais pardon Thomas, si vous l'avez et que par exemple vous contaminez quelqu'un. C'est embêtant.
Oui, mais. Et si. Ouais. Si mon tonton en avait, on l'appellerait tata, quoi.
D'accord.
On peut pas. Je veux dire, la grippe, le vaccin de la grippe qu'il y a depuis des années, on fait moins de chichi et pourtant il y a autant de c'est aussi dangereux. Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que.
Non, ça n'a rien à voir. On sait depuis des mois que ce n'est pas une grippe, Thomas.
C'est pas une grippe, mais.
Bah non. Bon, merci d'avoir appelé en tout cas. Merci d'avoir donné votre avis. Merci. Ouais. Belle journée à vous du côté d'Angoulême.
Oui, passez le bonjour à tous les PD de...
Pardon ? Non, bah alors là, je suis désolée, mais cette conversation est absolument terminée. Voilà, on fait une pause et puis on poursuit au 32-10 avec Anne.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Jusqu'à 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Et on continue cette conversation avec vous au 32-10 sur les nouvelles restrictions qui entrent en vigueur aujourd'hui. On a Alain qui est en Normandie. Bonjour Alain.
Oui, bonjour. Vous allez bien ?
Bah, assez oui. Bien, oui.
Oui, non, j'ai appelé parce que je suis un peu énervé par la présence des anti-Covid sur vos ombres.
Bah oui, oui.
La durée de présence. Alors qu'un ministre de la Santé parle 10 minutes, un abruti qui est kiné, qui n'y connaît rien, va parler un quart d'heure.
On essaie d'équilibrer, Alain.
Je veux bien que vous voulez pas leur couper la parole, mais à force d'entendre des inepties totales les uns après les autres, c'est fatigant. Et à force, moi, j'écouterai plus jamais RTL parce que entendre.
Ah ben non, on essaie de donner la parole à tout le monde. Voilà, on essaie de donner la parole à tout le monde. Chacun peut défendre son point de vue. C'est le principe.
Pour le vaccin, on lui donne une minute.
Non, c'est pas vrai. Franchement, Alain.
Ah non, mais attends, le kiné d'hier, il a passé un quart d'heure à vous parler. Celui qui était là avant.
Alors vous êtes pour le vaccin. Eh bien, prenez votre temps, Alain.
Totalement.
Expliquez-nous pourquoi.
D'abord, je suis médecin.
Eh ben, ça tombe bien.
98% des médecins. Je suis pour, voilà.
Pour quelle raison ? Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Tous les médecins sont vaccinés, voilà. Et voilà. Mes petits-enfants qui ont 12 ans sont vaccinés.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs précédents qui pensaient encore que c'était une simple grippette, que ça ne l'est pas ?
Mais non, mais évidemment, vous avez qu'à voir le nombre de morts. Bon. Et puis, les pathologies persistantes derrière. Donc, les insuffisances respiratoires, tout ce qu'on a, les problèmes articulaires et compagnie. C'est pas de la rigolade. Et en plus, on a un vaccin qui permet d'en sortir. On vous dit, ah oui, mais il y a un risque. Mais le risque est 1 sur 10 000. Et le risque d'avoir la maladie, il est 1 sur 100.
Ça vous agace, en fait, tous les gens qui sont sceptiques, voire anti-vax, voire complotistes ?
Les gens répétaient des inepties. Ah oui, on ne sait pas, on n'a pas le recul, n'importe quoi. C'est absolument exaspérant.
Restez avec nous, Alain, il y a Jacqueline aussi. Bonjour, Jacqueline.
Jacqueline,
elle va dialoguer avec vous, vous allez peut-être pouvoir lui donner des conseils. Vous avez une question, je crois, Jacqueline.
Oui, j'ai une question. Voilà, j'ai eu le Covid et j'ai une dose d'anticorps qui m'évite de faire une vaccination. Et je souhaiterais savoir comment je fais pour aller au musée ou au restaurant sans QR code.
Mais normalement, si vous avez eu le Covid, vous devez avoir une attestation, quelque chose qui montre que justement vous avez été infecté. Et oui, ça fait partie du pass sanitaire, ça.
Vous en êtes sûre?
Ah oui, j'en suis sûre.
Oui, non, mais parce que j'ai pas de QR code. Est-ce que je vais être acceptée quand même?
Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que Alain a une réponse à cette question?
Moi, je suis médecin généraliste. Je vais demander au spécialiste.
L'immunité, elle dure combien de temps, Alain, normalement? C'est au moins 6 mois, non?
C'est variable.
Mais en principe, c'est 6 mois.
C'est variable d'une personne à l'autre, l'immunité, c'est évident. Hein. C'est pas, tout le monde n'est pas équivalent. Hein. Donc peut-être faudra-t-il un troisième vaccin. Mais de toute façon, il faut passer par le vaccin. Il n'y a pas d'autre solution.
Et Jacqueline, vous, le vaccin, vous pouvez le faire ou pas encore?
Non, je ne peux pas le faire parce que ma sérologie...
Non, parce qu'elle a encore trop d'anticorps, donc ils ne veulent pas le
faire. Voilà,
j'ai
231 anticorps, alors qu'il n'en faut pas plus que 12, normalement.
Oui, donc faut demander, ils doivent vous donner un passe sanitaire. Donc à ce moment-là. Si vous faites un test PCR, vous n'êtes pas contagieuse, donc vous pouvez
y aller. Attendez. Oui, je suis d'accord avec vous pour faire un test PCR, mais je décide dans l'heure d'aller au cinéma, il faut que j'aille faire un test PCR avant?
Ah ben, je pense que si vous n'avez pas de QR code, oui, normalement.
Normalement, ça fait partie du pass. Donc, je ne sais pas où vous pouvez récupérer un QR code. On va se renseigner. On va essayer de trouver, l'information avant la fin de cette émission pour vous aider.
Je préfère ne pas donner d'informations que donner des fausses informations.
Oh, vous avez raison, cher monsieur, parce que c'est vrai qu'on en entend des verres
oui,
et des familles.
Oui, on en entend n'importe quoi. Donc, quand on ne sait pas, on se tait.
Bon.
Voilà, tout à fait. Écoutez, ça me rassurerait si vous pouviez trouver, parce que pourquoi j'irais...
Vous trouvez, vous inquiétez pas. Surtout, n'écoutez pas la voisine et le voisin et n'importe quoi.
Oh non, surtout pas.
Voilà. C'était le sens de mon intervention.
Eh bien, merci d'être intervenu, Alain. On a aussi Sylvie qui nous appelle. Bonjour, Sylvie.
Bon, allez, au revoir.
Merci, Alain, à bientôt. Au revoir, Jacqueline. Bonjour. Sylvie ?
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes plutôt pour le vaccin et vous comprenez les nouvelles restrictions du pass sanitaire ?
Alors, moi, je suis pour les vaccins et je suis outrée par rapport aux deux premiers auditeurs qui ont parlé à la radio. Écoutez, moi, ce qui m'agace, c'est l'égoïsme, les gens. Les gens ne pensent qu'à leur petite pomme, à leur petit confort, à leur sortie. Est-ce que je vais pouvoir faire ci? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Si on était en temps de guerre, c'est-à-dire si on était en 39-45 et on est en temps de guerre, parce que c'est ce que nous a dit Macron la première
fois. C'est vrai que c'était la métaphore qu'il avait filée au tout début et qu'il n'a plus refaite d'ailleurs après. Hein.
Oui, mais c'est comparable à une guerre, sauf qu'au lieu que ce soit une guerre physique avec des armes, des munitions, c'est une guerre bactériologique ou une pandémie, c'est une autre forme de guerre. Si on était en guerre, on n'irait pas discuter les ordres de De Gaulle ou d'Eisenhower ou de je ne sais qui. On écoute quand c'est la guerre, les militaires, ils écoutent, et même la population, elle écoute quand il y a le couvre-feu, on écoute, on pense pas à son petit confort, est-ce que j'ai envie d'aller en boîte de nuit, ou est-ce que j'ai envie de faire ci, ou est-ce que j'ai envie de faire ça, on pense à l'intérêt. À l'intérêt national. Moi, je suis vraiment outrée. Moi, personnellement, j'ai eu le Covid l'année dernière. J'étais fatiguée et je connais beaucoup de personnes qui sont parties, qui ont beaucoup souffert ou alors qui l'ont eu et qui ont des séquelles. Et ce n'est pas des gens qui ont plus de 80 ans ou des gens qui sont obèses ou des gens qui ont du diabète. Non, c'est des gens comme vous et moi parce qu'on ne connaît Il y a beaucoup de choses qu'on ignore de cette maladie. Il faut le dire et le répéter, on ne sait pas. Mmh. Donc quand on ne sait pas, eh ben, on se protège. Quand on va à la mer et on ne sait pas si la mer va être agitée ou pas, eh ben, on met une bouée de sauvetage. Même si on ne sait pas bien nager, ou même si on sait bien nager, quand on va en pleine mer, on met une bouée de sauvetage. On ne va pas discuter, mais là, c'est pareil. On se vaccine. Et le pass sanitaire, ben, je suis d'accord, c'est galère. Moi, j'ai des enfants, ils ont peut-être envie de sortir et tout, c'est embêtant, mais on le fait dans son intérêt et dans l'intérêt des autres. Alors, on va me dire, oui, on ne sait pas s'il va y avoir des séquelles dans quelques années, mais au nom de quoi on devrait tout savoir? C'est quoi cette société où il faut tout savoir? Mais non, on ne sait pas, il faut être humble. L'être humain, il doit être humble. On ne sait pas tout. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Il faut redescendre les pieds sur terre. On ne peut pas savoir et on ne saura pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. C'est qu'en étant vacciné, on est plus protégé qu'en n'étant pas vacciné. C'est tout ce qu'on sait. Donc, on se vaccine, on se protège, on protège les autres. Et pas que les vieux, pas que les personnes malades, mais on protège tout le monde. C'est tout. Il y a peut-être quelques risques, mais en tout cas beaucoup moins importants que les risques qui existent actuellement avec cette maladie. Donc moi, ça me... Voilà, quand j'entendais les personnes parler au début, ça me...
Eh bien, vous avez décroché votre téléphone, vous avez fait le 3210, et vous avez bien fait.
Voilà, surtout que je suis une fidèle auditrice. Vous voyez, j'ai plus de 50 ans et j'ai toujours écouté RTL et ça m'accompagne quotidiennement. Bah, je remercie à toute l'équipe parce que vous êtes vraiment super.
Ah bah, alors moi, ça fait plaisir parce que après la vague que j'ai prise dans la figure en début d'émission.
Oui, c'est ce que j'ai entendu.
Merci pour l'hommage, Sylvie. Merci, passez une belle journée. Merci. Allez, on fait une petite pause et puis on va poursuivre cette conversation avec vous tous dans un instant.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière. RTL.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Et on revient avec vous tous sur les restrictions, hein, les nouvelles restrictions sur le pass sanitaire et sur les annonces que vient de faire à l'instant Jean Castex sur TF1. Le Premier ministre était venu faire un petit peu de pédagogie parce qu'on a du mal à s'y retrouver sur ce qu'il va y avoir dans le projet de loi et plus précisément sur les amendements qui vont être adoptés au Parlement. Donc il est venu faire de la pédagogie et il a aussi fait des annonces. Et notamment, il va y avoir des assouplissements, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, alors d'abord pour les 12-17 ans. Vous savez qu'hier, en commission des lois, les députés avaient adopté contre l'avis du gouvernement le fait de reporter à fin septembre pour les 12-17 ans l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Eh bien, le Premier ministre a dit qu'il allait l'accepter. Écoutez.
Je rappelle que cette tranche d'âge, les plus jeunes, nous n'avons ouvert à leur bénéfice la vaccination que le 15 juin. Bon, là-dessus, on est entré dans la période des congés scolaires. Et donc, même si la vaccination progresse dans cette catégorie de population, chez les plus jeunes, c'est vrai que ça faisait subir à eux-mêmes et indirectement à leurs parents une contrainte forte, alors même que la vaccination a commencé plus tard, en France comme ailleurs d'ailleurs, pour eux, sur recommandation des autorités scientifiques. Alors, j'ajoute que nous avons prévu qu'au mois de septembre, nous allons mettre le paquet dans les collèges et dans les lycées. Nous allons mettre en place des dispositifs allant vers eux, dans les établissements, dès la rentrée scolaire.
Et puis le Premier ministre précise qu'il n'y aura pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires. Les collégiens, les lycéens pourront aller dans leur établissement sans pass sanitaire.
Ça veut dire qu'il y aura la vaccination dans les établissements scolaires ?
Oui, alors ils vont visiblement prévoir des dispositifs pour que dans les établissements, dès la rentrée,
on puisse vacciner
les adolescents qui ne l'auraient pas encore été. Alors, le deuxième assouplissement, c'est pour c'est pour les établissements qui reçoivent du public, notamment les restaurants, et qui devront contrôler le pass sanitaire. Ils n'auront pas, en revanche, à contrôler l'identité des personnes qui présenteront leur passe sanitaire.
Ça, c'est par exemple pour les restaurateurs.
Voilà.
Ça, c'est quelque chose qu'ils demandaient depuis plusieurs jours.
Tout à fait.
En disant, on n'est pas là pour faire la police.
Tout à fait. Et puis, Jean Castex a voulu vraiment inciter les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à le faire. Il a donc annoncé l'ouverture de nouveaux créneaux de vaccination. Écoutez.
Dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous. Dans cette période, ce n'est pas seulement ouvrir pour vous dire vous aurez un rendez-vous le 20 août. Et j'espère bien qu'à partir de la semaine prochaine et la suivante, là je lance un défi collectif sur ces deux, la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août, j'aimerais qu'on fasse au moins 4 millions par semaine, enfin 8 millions sur les deux, c'est un objectif très ambitieux, mais qui montre aussi que nous aurons compris la gravité de la situation.
Donc, 5 millions de créneaux ouverts, un défi pour que 4 millions de personnes soient vaccinées dans les 15 jours qui viennent, et puis l'assouplissement concernant les jeunes de 12 à 17 ans, le pass sanitaire n'entrera en vigueur que fin septembre.
8 millions donc de nouveaux vaccinés dans les 15 jours.
Non, 4 millions au total dans les 15 jours.
4 millions dans les 15 jours, voilà.
2 plus 2.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Allez, on continue cette conversation avec Alexandre qui nous appelle de Vendée. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour Christelle, je suis ravie de vous avoir au téléphone.
Et ben moi aussi, ça me fait bien plaisir. Vous, vous êtes pour la vaccination et pour la mise en place du pass sanitaire ?
Exactement, et puis je me suis permis de vous appeler surtout parce que j'ai entendu deux témoignages en début d'émission qui m'ont vraiment effrayé, qui m'ont donné des sueurs froides. Donc là, je me suis permis d'appeler tout de suite parce que je pense que ces gens-là sont quand même assez minoritaires dans le pays. En tout cas, je l'espère. Mais ils prennent beaucoup de place en ce moment et je pense que c'est important d'avoir des avis comme ça, contradictoires et qui essayent de contrer un petit peu ces arguments-là.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement, vous, à ces gens-là?
J'aimerais juste qu'ils ouvrent les yeux sur le progrès scientifique qu'on arrive à faire en ce moment. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer un vaccin, créer en partie, un vaccin en moins de 2 ans, avec une maladie qui était inconnue jusque-là. Je pense que c'est assez incroyable. On peut en bénéficier en France gratuitement. On protège les personnes sensibles. Enfin, tout ça, je pense que c'est quelque chose à souligner quand même. Et que des gens soient totalement contre, plus par réflexe qu'avec leur pensée,
C'est un problème de responsabilité collective pour vous aussi, Alexandre ?
Bien sûr, il y a ça. Et puis de responsabilité aussi auprès de sa famille, auprès de tes amis, de responsabilité pour continuer à ce que le pays vive correctement. Rien qu'économiquement, moi je préfère largement présenter un pass sanitaire à mon restaurateur, au restaurant je veux dire, pour aller au cinéma, que de refermer tout pendant encore un mois.
Oui, c'est ce que disait hier le ministre de la Santé, c'est ou le pass ou le confinement.
Voilà, exactement. Donc là on est dans une situation qui redevient un petit peu critique. Donc c'est important de trouver des solutions sans rebloquer le pays une nouvelle fois. Cette solution, pour l'instant, elle s'appelle le vaccin. Peut-être que plus tard, on aura un traitement plus simple que le vaccin. Mais là, en ce moment, on n'a que le vaccin, donc allons-y.
Alexandre, je vois que vous avez 28 ans.
Oui.
Vous vous êtes vacciné déjà ?
Vacciné, la deuxième dose la semaine dernière. Donc j'en suis ravi et puis j'essaye d'inciter... mes amis, ma famille, à faire de même, même si parfois ça peut créer des petits débats houleux. Mais bon, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pas dans les extrêmes. Quoi.
Bon. Et vous êtes ressorti en boîte de nuit, vous, depuis quelques jours ou pas encore ?
Pas encore. Mais si l'occasion se présente, pourquoi pas ?
Parce que, oui, pourquoi pas, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez l'impression de retrouver une certaine liberté ?
J'ai le choix. C'est-à-dire que si samedi prochain, on me dit... viens, on va en boîte de nuit, je ne me poserai même pas la question. J'ai la chance d'avoir mon pass sanitaire dès la semaine prochaine entièrement complet, donc je ne me poserai même pas la question. Et c'est ça, pour moi, la liberté.
Et que disent les jeunes qui sont autour de vous ?
Alors, j'ai une partie de mes amis qui est du même avis que le mien. On est quand même nombreux à penser comme moi, mais j'en ai quelques-uns qui sont encore un petit peu réfractaires. Parce qu'ils sont aussi un petit peu influencés par les avis un peu extrêmes qu'on entend, qu'on lit beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Il y a un petit peu moins contrôlé que les médias, on va dire, traditionnels. Donc, si on n'a pas le temps, si on a une vie qui est bien remplie, on prend que les informations un petit peu de droite à gauche comme ça, on ne s'intéresse pas au fond du sujet. Et malheureusement, on récupère beaucoup de négatifs.
Merci Alexandre d'avoir témoigné. Merci, à très bientôt sur RTL. On va retrouver Marie-Bénédicte Allaire qui a fait une petite boulette les chiffres.
J'ai un problème avec les mathématiques, je crois. Donc le Premier ministre a bien dit qu'il lançait un défi donc aux Français qui ne sont pas encore vaccinés. Il souhaite qu'au moins 4 millions de personnes par semaine se fassent vacciner la semaine prochaine, dernière de juillet et première d'août, ce qui ferait 8 millions.
Voilà, et ils visent bien les 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin du mois d'août.
Tout à fait. Merci
Marie-Bénédicte d'avoir rectifié. On fait une pause et puis dans un instant, on poursuit cette conversation avec Sylvie. Et dans quelques minutes, on va parler des noyades en piscine.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robillard.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Christelle Rebière.
Et on poursuit cette conversation autour du pass sanitaire et des nouvelles restrictions avec Sylvie qui est aide-soignante. Bonjour Sylvie.
Bonjour, vous m'entendez ?
Très bien. Dans quelle région êtes-vous ?
Alors je suis sur Poitiers.
D'accord. Soyez la bienvenue. Donc, Sylvie. Vous êtes aide-soignante en réanimation ?
Oui, je suis aide-soignante en réanimation neurochirurgicale. Donc, on n'a pas été, nous, très impactés, on va dire, par le Covid, même si on a reçu des gens des régions autres, mais il y avait des services dédiés à cela. Donc, nous, on s'est organisé pour prendre les autres patients des autres services. Voilà, on a fait autrement.
Et vous, vous êtes pro-vaccin ?
Alors, moi, je suis vaccinée. Mon mari est vacciné. On était en hésitation par rapport à mon fils de 14 ans. Donc, on a quand même, parce que voilà, mon mari avait peur un peu sur les effets par la suite, s'il pouvait devenir stérile ou quoi que ce soit. Mais bon, j'ai insisté, on en a discuté. Dans le coup, il a eu sa première dose.
Il a eu sa première dose de Pfizer, oui.
Et il va avoir sa première dose de Pfizer au mois d'août. Oui. Et la deuxième, il l'aura la veille de la rentrée. Voilà. Après, ce qui me dérange par rapport au pass sanitaire, enfin voilà, c'est pas forcément pour nous les adultes, c'est plus pour les jeunes, parce que j'ai un autre fils qui a 20 ans, qui travaille dans la restauration et qui lui est contre le vaccin.
Et lui, il va devoir être vacciné pour pouvoir travailler.
Il va devoir, mais il ne veut pas. Donc, ils se sont un peu pris la tête avec, je ne vous cache pas, avec son papa. Parce que, voilà, on ne le comprend pas, sa réaction. Il préfère payer les tests PCR.
Qui ne seront plus remboursés à terme, justement.
Et donc, on ne comprend pas trop sa réaction, mais il est un peu en l'air de dire non.
Quel discours vous lui tenez ? J'imagine qu'en famille, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de familles qui ont des discussions difficiles en ce moment.
Alors nous, on lui dit qu'il doit être suffisamment riche pour pouvoir se payer ses tests PCR.
Oui.
Parce que si à un moment donné, les tests passent, je ne sais plus à quel tarif, mais il doit être assez riche, qu'il ne pourra plus aller au cinéma, puis même par rapport à ses études, si après on nous annonce qu'il doit rester 3 mois parce qu'il va se faire vacciner après, on n'est pas d'accord, quoi. Ce ne sera pas 3 mois de vacances, il a une suite. En plus, il veut voyager à travers le monde, donc on ne comprend pas trop sa logique. Donc, son papa discute. Après, ce n'est pas mon fils, c'est mon beau-fils.
Oui.
Donc voilà, j'ai pas eu moi l'occasion de discuter avec lui, mais ayant une maman qui est moi très fragile, voilà, je me dis que j'ai pas envie non plus qu'il me ramène, même si je peux être immunisée, qu'il ramène ça, quoi. Donc et puis qu'il l'attrape, parce que tous les auditeurs que je viens d'entendre là, certes ceux qui sont contre, se disent qu'ils ont peu de chance de l'avoir. Mais alors moi, j'aimerais bien leur dire qu'ils peuvent l'avoir et que dans ces cas-là, qu'ils n'oublient pas de mettre un petit papier dans leur portefeuille. Pour ne pas venir rencontrer les services de réanimation si on doit se retrouver face à une quatrième vague. Et qu'ils pensent à leurs proches, parce que je vous assure que les collègues qui ont travaillé dans le secteur Covid, quand elles ont fini fermer les sacs plastiques, où les gens sont morts tout seuls, c'était une véritable souffrance et c'était très très dur. Et quand on voit des gens qui ont le Covid sans être intubés, mais qui sont obligés d'être restés dans des fauteuils avec de l'optiflo, c'est-à-dire de la lunette à haute concentration, de l'oxygène à haute concentration, et qu'on ne peut pas les allonger dans un lit, qui reste dans des fauteuils et qu'ils ont une saturation à 80% alors qu'on est à 100% normalement, c'est très très difficile, c'est très douloureux de voir ça, les gens qui étouffent.
Bien évidemment.
Donc, il faut se dire que les gens, on n'est pas à l'abri. On a eu des jeunes, on a eu des moins jeunes, on a eu des gens sans comorbidité. Donc, je pense qu'il faut que tous ces gens soient raisonnables. Et sur l'avant-dernier auditeur, quand vous lui avez coupé la parole, quand il a souhaité dire bonjour à ses amis, je ne citerai pas le nom, je voudrais lui demander si, quand il y a eu la période du sida, quand il y a eu les trithérapies qui sont arrivées, est-ce que ces trois amis... je ne sais pas si c'était humoristique ou pas, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir si ça allait prendre la trithérapie ou pas ? Parce que ça se rejoint un peu, on n'avait aucun recul sur la trithérapie. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions.
Merci beaucoup, Sylvie, pour votre témoignage très pondéré. Merci beaucoup. Merci. Donc, voilà. Bonne journée
à
vous.
Rien, bonne journée à vous. Ben là, je pars travailler. Merci de m'avoir pris si rapidement.
Et ben, bon courage. C'était un plaisir, en tout cas, de vous entendre. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
Merci. Allez, on va changer de sujet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
C'est un drame malheureusement classique de l'été, celui des noyades. Le confinement nous a contraints à l'immobilisme. Depuis le début de l'été, il y a de plus en plus de noyades en mer parce que nous n'avons plus assez de forme physique. Et dans les piscines, ce sont surtout les enfants qui prennent des risques. Chaque année, plus de 1000 personnes se noient, dont plus d'un tiers parce qu'elles ne savent pas nager. Alors, on a envie de vous entendre sur ce sujet douloureux au 32-10. Bonjour Jean-Michel Lapoux.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs.
La Fédération des maîtres nageurs à Bordeaux.
Pardonnez-moi. Le confinement pénalise aussi grandement les enfants qui n'ont pas pu apprendre à nager.
Oui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu apprendre à nager puisque les piscines étaient fermées. La formation des maîtres nageurs et des sauveteurs aquatiques a été ou arrêtée ou freinée complètement cette année. Donc, non seulement les enfants, donc beaucoup d'enfants ne savent pas nager au moment de l'ouverture de la saison, mais en plus, le personnel n'y est pas. Bon, vous avez des piscines qui n'ont pas pu ouvrir en juin faute de personnel. Certaines enfermées pour toute la saison ne sont toujours pas ouvertes. D'autres, pratiquement, les mairies m'appellent tous les jours pour demander du personnel qu'il n'y a pas. Alors, il y a plusieurs causes à tout ça. Alors, je crois qu'il faudrait quand même cerner là où les enfants se noient. Ils se noient, c'est pas en piscine municipale qu'ils se noient, il n'y a pas une augmentation.
Oui, c'est dans les piscines privées, surtout, on est bien d'accord. Ouais.
L'augmentation des loyers, elle se fait en piscine familiale. C'est là que les enfants se noient, pendant que les parents, ma foi, sont en train de faire autre chose. Voilà, alors il y a une augmentation de loyers à la mer, dans les lacs, dans les rivières, tout ça. Mais c'est sûr que alors l'apprentissage de la natation, ben, c'est sûr qu'il faudrait le développer au maximum. Et actuellement, certaines piscines n'ont pas le personnel pour enseigner la natation. Vous avez plus de 300 piscines actuellement qui sont ouvertes sans maître nageur, avec des sauveteurs aquatiques qui n'ont pas le droit d'enseigner.
Mais pourquoi, pourquoi on manque de bras à ce point-là? Pourquoi on manque de bras à ce point-là chez les maîtres nageurs?
Alors, la formation de maître nageur coûte 6 500 € et dure une année scolaire, voire deux années scolaires. Nous avons un examen de maître nageur le plus dur, le plus compliqué à obtenir au monde. Mmh. Alors, nous insistons depuis un an avec le ministère des Sports pour diminuer évidemment le niveau et surtout la longueur, la durée et le prix. Il n'y a pas moyen, on en reste toujours avec les mêmes textes. Aller passer une année de formation pour faire une saison, dépenser 6 500 € de formation, plus se nourrir, plus se loger, mais évidemment, c'est travailler à perte après et les gens ne se bousculent pas.
J'imagine. C'est quand même extrêmement compliqué. C'est assez incroyable ce que vous nous dites, Jean-Michel Lapoux. Voilà. On va dialoguer. Je vais vous laisser dialoguer aussi avec les auditeurs. Ingrid nous appelle de Vannes. Bonjour Ingrid.
Bonjour Christelle et bonjour Monsieur Lapoux.
Alors, Ingrid, on va faire une toute petite pause et puis on va retrouver tout de suite. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière. Magasin.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Et on parle des noyades en piscine et de la nécessité d'apprendre à nager aux enfants dès 6 ans. Ingrid.
Oui.
Rebonjour, pardonnez-moi.
Rebonjour.
Alors, vous avez appris à nager à quel âge, vous?
Je savais nager à 5 ans. On m'a mis les pieds dans l'eau à 6 mois.
Oui, mais vous habitez à Vannes, hein, donc géographiquement, vous êtes favorisée.
À l'époque, j'étais en Normandie, mais mes parents allaient vraiment déjà en Bretagne. Et on m'a mis les pieds dans l'eau dès 6 mois. Mes parents m'ont appris à nager dans la mer. On a fait les bébés nageurs aussi, quand j'étais toute petite. Et à 5 ans, je savais nager.
Mmh. Et pour vous, on doit apprendre à nager où?
À l'école. Pour moi, ça me semble obligatoire. Alors, vous voyez, j'ai 36 ans. Je suis peut-être vieille pour certains auditeurs ou pas assez pour d'autres. Mais en CE2, on avait les cours de piscine une fois par semaine. On était classés par groupe. Il y avait une évaluation. Et dans cette-là, à la fin de l'année, tout le monde savait nager. Ceux qui avaient peur de l'eau, parce que c'est ce que je vois par rapport à mes collègues. Et c'est grave de voir ça quand on vit au bord de la mer. J'ai des collègues de mon âge un petit peu plus âgés qui ne savent pas nager parce qu'ils ont peur de l'eau et du coup ne veulent pas apprendre à leurs enfants à nager. Alors qu'à l'école, au moins, je pense que C'est le plus important.
Mais Jean-Michel Lapoux, c'est obligatoire à l'école. En quelle année on leur apprend à nager aux enfants?
En général, on apprend à nager à 5, 6, 7 ans.
Mais à l'école, hein?
Oui, mais encore faut-il que l'école aille à la piscine, qu'il y ait une piscine à la commune et qu'elle soit ouverte pendant l'hiver. Il y a beaucoup de communes où il n'y a pas de piscine, de communes où il n'y a qu'un bassin d'été. Mmh. Alors la natation scolaire, bon, c'est bien beau. C'est, quand elle existe, c'est très bien, je ne nie pas ça. Maintenant, il faut quand même reconnaître. Vous allez voir un maître nageur, en 10-12 leçons, il vous apprend à faire 25 mètres et pas sauter. Autrement dit, à donner l'initiation à la natation. Vous allez à l'école, il faut y passer un an. Alors ça aussi, c'est un problème. La natation scolaire est trop longue et elle devient trop chère pour tout le monde, y compris pour le contribuable.
Bon, si oui, enfin, c'est toujours mieux que rien, c'est quand même assez important.
Si on passe une année scolaire sur une école, les autres écoles, ils vont pas.
Oui, Ingrid.
Moi, ce que j'aimerais juste dire à M. Lapoux, c'est que, certes, ça peut peut-être coûter cher, mais il faut faire la part des choses entre déjà les parents qui ont la phobie de l'eau et qui ne veulent pas nager parce qu'ils ne savent pas nager, donc n'emmènent pas leurs enfants à la piscine ou au bord de la mer. Moi, j'en connais, ils les emmènent sur la plage, ils font des châteaux de sable, mais ils ne mettent pas les pieds dans l'eau. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas les moyens de payer des cours de piscine à leurs enfants pour justement les sécuriser et leur apprendre à nager.
Donc, absolument.
Moi, je pense de mon côté qu'au niveau scolaire, plutôt que de faire des tours de stade à l'école en ETS, il faudrait peut-être mieux d'apprendre aux enfants à nager et pour une question de sécurité quand même.
Mmh. Jean-Michel Lapoux.
Non, mais je suis d'accord, la natation scolaire doit exister. Et normalement, dans certaines classes, elle contraint un peu tout le monde à y aller. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et, dans les piscines d'été fonctionnent. On apprend à nager dans la plupart des piscines d'été. On doit en profiter. Et même quand la natation est gratuite, donc pas chère du tout, dans certaines communes, les gens n'y vont pas tellement plus.
Mmh. Oui, mais dans certaines communes qui sont très très éloignées quand même, en milieu rural, qui sont très éloignées, on va dire, des côtes, ces personnes-là qui n'ont pas eu les moyens de faire nager leurs enfants pendant l'année vont se retrouver sur la plage parce que c'est les vacances d'été, ils vont au bord de la mer. Et là, ils se retrouvent avec des enfants qui peuvent avoir des risques de noyade énormes parce qu'ils n'ont eu aucun cours de natation.
Jean-Michel Lapoux.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. La natation scolaire doit être revue. Cet enseignement de la natation s'embouer en mettant des adultes agréés qui n'y connaissent rien et qui mettent une année pour apprendre à enseigner, soi-disant, la natation, ça doit être revu. Maintenant, c'est nécessaire. Ça, je ne suis pas contre la natation scolaire, bien au contraire.
Non, vous dites on manque de bras. C'est pas la même chose. Restez avec nous tous les deux. Il y a aussi Elisabeth qui nous appelle de région parisienne, qui est dans les Hauts-de-Seine, dans le même département que nous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Christelle, oui, je vous appelle de Garches, je suis une fidèle.
Bon, vous considérez que c'est aux parents de faire le boulot finalement?
Oui, mais je vais vous dire, en entendant les dialogues que vous avez eus là, je me rends compte qu'il y a une différence de génération. Moi je crois que, à ma génération, j'ai 70 ans, on apprenait aux enfants à nager, les parents, et pas la piscine. C'était bon,
dans votre génération, il y a beaucoup de gens, pardon Elisabeth, qui oui. Nagent très très mal et qui sont pas du tout à l'aise dans l'eau, hein, parce que.
À 71 ans, si.
Ah ben, quand même. Je demande à Jean-Michel Lapoux ce qu'il en pense.
Mais moi, je suis de votre génération, madame. J'ai appris à nager en piscine. Après, j'ai suivi un petit club de natation de Mont-de-Marsan, qui était un club saisonnier pendant l'été. Et puis après, je suis devenu maître nageur parce que c'était ma passion.
Oui.
Mais est-ce que vraiment les parents peuvent faire le job ou pas? Parce que c'est quand même assez technique, c'est un peu compliqué.
Les parents doivent aider le maître nageur, faciliter, acclimater l'enfant en milieu aquatique. Voilà. Mais je pense que la plupart, si on délègue ça uniquement aux parents, on aura des résultats encore moindres que ce qu'on a actuellement.
Mmh. Et oui, pardon, Elisabeth.
Non, je vais vous dire une chose. Il y a certains parents, comme moi, j'avais la chance de pouvoir aller à la mer chaque été. J'ai appris à nager à mes enfants sans bouée. Et ils nagent tous les trois parfaitement. Mais parce que j'étais là. J'étais au bord de la plage ou au bord de la piscine.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, j'étais là. Jean-Michel Lapoux, souvent, quand il y a des problèmes et quand les enfants se noient dans les piscines privées, notamment hein, dans la piscine des grands-parents, par exemple, c'est juste quelques secondes, quelques minutes d'inattention.
Mais voilà, en général, c'est pendant le repas, les adultes sont en train de discuter autour de la table, ou le temps que la mère va aux toilettes, c'est-à-dire quelques minutes, et l'enfant peut se noyer. On a des enfants qui se sont noyés pendant que la mère était aux toilettes. Bon,
oui, c'est et en plus, l'enfant qui se noie, il faut quand même expliquer qu'il ne crie pas. Hein. Non, il ne se débat pas. C'est une espèce de drame silencieux, quoi.
Voilà. Oui. On ne se débat pas, on ne crie pas, on n'agite pas les bras.
Non, c'est ça. Elisabeth.
Oui, je peux dire quelque chose à
Ah, c'est Ingrid. Oui, Ingrid.
Je rejoins totalement Elisabeth parce qu'elle a 70 ans, comme elle a dit. Hein. Moi, mes parents ont 10 ans de moins qu'elle, donc vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Moi, c'est mes parents qui m'ont appris à nager dans la mer, à mon tour, à moi. Voilà. Donc, c'est un bel exercice. Ils ne nous ont jamais lâchés tout seuls, ni sans brassard, ni quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est les parents qui ont quand même joué le premier rôle avant qu'on aille à la piscine.
Voilà, c'est encore une fois, si je puis dire,
Elisabeth.
Une responsabilité qui doit revenir aussi aux parents. Il y a l'école, il y a tout, mais les parents doivent apprendre. Ceux qui peuvent, bien sûr. Hein. Je parle peut-être d'une génération qui était plus facile. Mais moi, ma mère m'a appris à nager sans bruit, je le dis bien. Et j'ai appris à mes trois enfants qui nagent parfaitement, et maintenant c'est mes petits-enfants, mais ça je ne sais pas. Mais bon, c'est juste pour vous dire qu'il y a une question de présence. Il faut être là, il faut être là, il ne faut jamais quitter un enfant qui est dans l'eau. Mm-hmm. Déjà, commencez par ça. Moi, j'ai vu des mères arriver à la piscine en disant à la maître nageuse, je vous laisse mes enfants. Non, ce n'est pas une garderie, un maître nageur. Il surveille la piscine, mais pas un enfant.
Absolument.
Non, 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 il y a une nouvelle chose qu'il faut avoir, parce qu'il est moi, auprès de moi, j'en ai eu deux accidents terribles. Donc, il faut absolument donner une autre chose pour la natation.
Jean-Michel Lapou, pour conclure, quel conseil vous donneriez aux parents qui ont une piscine privée ?
D'amener les enfants, enseigner, apprendre à nager avec un maître nageur le plus vite possible, ça c'est sûr. Alors il y a d'autres paramètres qui pourraient être modifiés. Ces piscines familiales qui occasionnent le plus de noyés, il n'y a aucun organisme vraiment désigné pour les contrôler. Et on voit des piscines partout autour de nous, pas sans clôture, sans système d'alarme, et personne ne contrôle rien du tout. Alors là, il faudrait quand même désigner des personnes vraiment accréditées et qui viennent chez les gens et qui contrôlent ces piscines. Ça n'existe pas actuellement. Or, la plupart des noyades viennent de ces piscines familiales.
Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Lapou d'avoir témoigné. Merci à Ingrid et à Elisabeth. Et je m'excuse auprès de Jacqueline qu'on n'a pas eu le temps de prendre, parce que j'aimerais bien qu'on finisse cette émission comme on le fait chaque jour sur votre chanson du jour, votre chanson de l'été. On a Jacques qui nous appelle du Jura. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Eh bien, ça me fait plaisir de vous entendre.
Moi aussi. Alors, quelle est la vôtre ?
C'est Claudio Capéo, je t'emmènerai.
On l'écoute. Viens, on se fait du bien. Viens, le monde en rêve, on te vient. On s'aime pour rien. On s'entraîne, on se réenchante. Viens, on se soutient. On oublie tout ce qui nous hante. Viens, viens, les commères. Je t'emmènerai danser. Alors Jacques, je t'emmènerai, mais vous m'emmenez où alors ?
Où vous voulez.
J'aime bien ce genre de proposition, méfiez-vous, je peux choisir une destination très lointaine et très chère. Hein.
Oh, vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie.
Non, vous avez bien raison. Bon, mais pourquoi cette chanson alors ? Parce qu'elle vous fait du bien ?
Elle me donne la pêche le matin, puis le matin ou dans la journée. Et j'adore cet artiste que j'ai découvert il y a un an.
Claudio Capéo.
Et pourtant, on n'est pas de la même génération, hein, Capéo et moi.
Mais peu importe.
J'aime bien cet artiste parce qu'il respire la bonne humeur, la positivité. Et quand on sait comment il s'est construit, on ne peut que l'aimer. Parce qu'il est arrivé à force de travail et pas à force de piston.
Claudio Capéo qui a participé à la saison 5 de The Voice.
Ah, ça m'avait échappé. Voilà. Merci beaucoup Jacques. Merci pour cette chanson qui nous fait du bien.
Bonne journée.
Merci, je vous embrasse. Bonne journée, à bientôt sur RTL. On arrive à la fin.
Ça me fait du bien si vous m'embrassez.
Merci, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve demain, même lieu, même heure. RTL midi à partir de 12h30. Et puis, vous prenez la parole au 3210 comme chaque jour. Belle journée à vous tous. Soyez heureux jusqu'à demain.
Les auditeurs ont la parole
avec Christelle Robier.
Il est 14h. On retrouve Stéphane Geneste pour les infos. Bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Un nouveau conseil de défense sanitaire s'est déroulé ce matin. La situation épidémique du pays s'empire de jour en jour. Ces dernières 24 heures, 18 000 nouvelles contaminations au Covid ont été enregistrées par les autorités et 96% de celles et ceux qui l'ont contracté n'étaient pas vaccinés. Voilà ce qu'a annoncé Jean Castex. Le Premier ministre était l'invité de nos confrères de TF1 et devant cette statistique, le chef du gouvernement a de nouveau martelé l'efficacité des vaccins et l'utilité de la vaccination. Pour ce faire, la stratégie mise en place par les autorités, vous le savez, c'est la généralisation du pass sanitaire. Le dispositif